La science CQFD, Natacha Triou.
Les ventes d'insecticides, d'herbicides et de fongicides ne freinent pas et leur utilisation ne connaît pas de répit. Pesticides, comment les réguler ? De 300 pesticides sont autorisés en France. Ces produits contaminent tous les milieux, et pas seulement les milieux agricoles. Depuis les années 60, et l'emblématique printemps silencieux de la biologiste Rachel Carson, les alertes sont nombreuses, et de multiples expertises montrent que ces produits contribuent à l'effondrement de la biodiversité. Comment ces risques environnementaux sont-ils évalués ? Quelles sont les solutions alternatives ? Pesticides, permis de tuer ? Laure Mamie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE. Vous avez participé à la rédaction du rapport Ifremer-INRAE, sorti en mai dernier, sur l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement. Et en duplex avec nous, des studios France Bleu Hérault, nous sommes avec Wilfried Sanchez. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi participé à la rédaction de ce rapport. Vous êtes directeur scientifique adjoint l'Ifremer en charge de la thématique contaminants et impact sur le milieu marin et également copilote du programme prioritaire de recherche océan et climat lancé en 2021. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Vous pouvez nous suivre sur les ondes mais aussi sur Twitter @sciencecqfd pour notre live tweet car nous aussi nous restons à votre écoute. Alors aujourd'hui on s'intéressera surtout aux conséquences de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les écosystèmes. Écoutez comment cette problématique était pensée en 1970.
Que sait-on de l'influence des produits chimiques, en particulier des engrais, des pesticides différents, mais surtout des engrais, sur les micro-organismes du sol ?
Problème nouveau, c'est le problème soulevé là, c'est le problème des insecticides et des pesticides en général. Incontestablement, l'utilisation systématique des pesticides, et en particulier des insecticides, entraîne un appauvrissement de la faune du sol. Et cet appauvrissement de la faune du sol est préjudiciable. Est préjudiciable d'une manière globale sur le comportement des cultures, est préjudiciable d'une manière beaucoup plus partielle sur des propriétés physiques comme la perméabilité, parce que par exemple, les vers de terre assurent un travail de forage de galeries qui permettent une meilleure circulation de l'eau dans le sol. C'est une chose qui est assez évidente et qui a été largement prouvée. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'une utilisation modérée, raisonnable, des insecticides présente en soi un danger. Je pense là que votre question soulève un problème d'ordre général. La technique moderne n'est pas en soi un danger. Je ne pense pas qu'on puisse le dire. Ce qui est certain, c'est que la technique moderne, outrée, présente plus de dangers qu'une technique traditionnelle qui était presque nécessairement en équilibre avec un certain système sol, terrain, etc. Vous voyez ? Mais je ne pense pas qu'on puisse dire il ne faut pas utiliser d'insecticides sur une culture parce qu'on va abîmer le sol. Je pense qu'il faut éviter d'inonder le sol d'insecticides pour se prémunir à tout prix contre n'importe quelle éventuelle invasion d'insectes.
La voix de Gérard Monnier, maître de recherche à l'Institut National de Recherches Agronomiques en 1970. Laure Mamie, une réaction à cette archive.
En effet, c'est très intéressant. Donc le travail que nous venons de mener pendant 2 ans, qui a consisté à analyser les connaissances scientifiques qui permettent de déterminer quels sont les impacts des pesticides sur la biodiversité, a effectivement mis en évidence des impacts de ces pesticides sur certains organismes, et effectivement notamment les invertébrés, donc notamment les abeilles, les bourdons, les papillons, les oiseaux, les invertébrés aquatiques, donc et, par exemple. Donc effectivement, il y a un impact avéré des pesticides sur la biodiversité de ces organismes-là.
Wilfried Sanchez, pour réagir aussi à ce qu'on vient d'entendre.
Intéressant, en effet, je notais par exemple que la personne interviewée présentait cette problématique comme une problématique nouvelle. Alors en 2022, la problématique elle est plus nouvelle. Depuis 1970, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés et ont permis de mieux comprendre ces impacts, leurs mécanismes d'action et puis leurs conséquences sur les sols et sur de nombreux autres compartiments de l'environnement. Une connaissance que les pouvoirs publics derrière peuvent mobiliser pour encadrer l'utilisation de ces molécules.
Alors, en mai dernier, vous avez tous les deux fait paraître les résultats de l'expertise scientifique collective INRAE-IFREMER sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un énorme travail, c'est une méta-analyse de 4000 rapports et articles parus dans la littérature scientifique au cours des 20 dernières années. Que ressort-il plus précisément de ce bilan ?
Alors en effet, comme on vient de vous l'indiquer, c'est que les pesticides sont vraiment une des causes du déclin de la biodiversité, mais ça n'est pas la seule cause. En fait, il y a d'autres causes, comme par exemple le changement d'usage des terres et des mers, l'exploitation directe des organismes ou le changement climatique, mais donc l'usage des pesticides intervient comme la quatrième cause de déclin de la biodiversité. Et donc en fait, le déclin de la biodiversité, il est aggravé par ces pesticides, mais il y a aussi donc la perte des habitats des organismes ou la perte des ressources de nourriture. Et donc, en fait, c'est un ensemble, en fait, c'est un contexte qui est multifactoriel et qui conduit à ce déclin de la biodiversité qui s'est vraiment intensifié toutes ces dernières années.
Vous de votre côté, Wilfred Sanchez, vous montrez que les impacts de ces substances sur la biodiversité, ça montre un manque de connaissances criant dès qu'il s'agit de biodiversité marine.
Ce qu'on a pu montrer dans ce rapport et qui est intéressant, c'est d'abord que le milieu marin est contaminé par ces molécules. L'océan, c'est l'ultime réceptacle des contaminations terrestres. Et donc, on va pouvoir retrouver des molécules, parfois des molécules qui sont interdites depuis de nombreuses années dans l'océan, jusqu'à des lieux très éloignés des zones où elles sont appliquées, puisqu'on va pouvoir retrouver des molécules anciennes, soit dans les grands fonds marins à plus de 3000 mètres de profondeur, soit dans les zones dans des zones très reculées de la planète et notamment dans les zones polaires. Donc on a cette contamination et pour autant on manque en effet de connaissances sur les effets de cette contamination sur la biodiversité. En milieu marin, c'est une lacune que l'on ne constate pas en milieu terrestre, que ce soit au niveau des sols ou des écosystèmes aquatiques. En milieu marin, on manque cruellement de connaissances sur les effets de ces molécules sur la biodiversité et les services écosystémiques.
Oui, c'est ce que montre ce rapport, en effet, c'est que les zones agricoles traitées sont très logiquement les plus contaminées au niveau des sols, de l'air, des cours d'eau qui les traversent et des eaux côtières adjacentes. Mais ce rapport montre que donc cette contamination est totale, qu'elle concerne tous les milieux.
Oui, absolument. En fait, donc évidemment, ce sont les zones agricoles qui sont les plus exposées. Et donc, c'est là où les impacts sont les plus importants. Mais en effet, les pesticides se dispersent par différents processus. Donc, ils peuvent effectivement atteindre l'air au-dessus des parcelles traitées. Et ensuite, avec les courants d'air, ça se déplace et ça peut aller très loin jusqu'aux zones subpolaires. Et puis aussi, ça peut être transféré vers les nappes d'eau souterraines ou vers les cours d'eau adjacents. Et donc, effectivement, avec différents processus, les pesticides donc s'éloignent de leur lieu d'application et donc peuvent contaminer beaucoup plus loin le milieu et donc impacter les organismes qui sont plus loin de la zone traitée.
Oui, Wilfried Sanchez, selon le Commissariat Général au Développement Durable, les pesticides sont présents dans 91% des cours d'eau français.
Pas surpris en effet, c'est assez raccord avec ce qui a été documenté par notre travail d'expertise.
Alors ce qui est aussi étonnant, c'est que les insecticides sont essentiellement retrouvés dans les sols, les sédiments et les organismes, alors que les herbicides, eux, sont plutôt dans l'eau. Comment ça s'explique, ça ?
Alors, si je peux répondre à cette question, en fait, ça dépend des propriétés moléculaires des composés. Mmh. Effectivement, les herbicides sont généralement des molécules qui sont assez solubles dans l'eau. Donc, c'est pour ça que, logiquement, on les retrouve forcément dans la phase liquide. Dès qu'il pleut, ils sont entraînés par la pluie, en profondeur vers les nappes d'eau souterraines ou éventuellement vers l'eau de surface par ruissellement. En revanche, les propriétés moléculaires des insecticides font qu'ils sont généralement pas solubles. Donc, ils sont hydrophobes, donc ils vont pas dans l'eau et ils restent plutôt dans le sol. C'est une des raisons de cette différence entre ces deux types d'usage.
Wilfred Sanchez ?
Oui, tout à fait. Laure est bien plus compétente que moi sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'il y avait ce blanc où je lui tendais la perche.
Très bien. Là, on parle d'une contamination qui est très large, qui concerne tous les milieux. Est-ce qu'on peut faire ensemble un petit panorama, un état des lieux de cette utilisation en France ? À quelle fréquence c'est utilisé ? Et puis, quels produits, Laure Mamie ?
Alors, les usages donc des pesticides, on les connaît. Donc, c'est en moyenne entre 50 000 et 70 000 tonnes par an de vente hein, de produits phytopharmaceutiques. Ensuite, effectivement, ça dépend des usages. Donc, les fongicides, insecticides, herbicides sont les molécules les plus utilisées. Et le nombre de traitements va dépendre de la culture. Donc, il y a moins de traitements en général en grande culture qu'en arboriculture, parce que tout dépend aussi de la pression des ravageurs. Donc ça peut aussi, le nombre de traitements peut varier d'une année à l'autre. Il y a des années où il y a moins de pression des ravageurs que d'autres années, en fonction du climat, par exemple. Donc en fait, c'est pour ça que c'est variable d'une année à l'autre, aussi bien le nombre de traitements que les quantités vendues et utilisées, etc.
En 2018, hein, la France était le premier pays acheteur de pesticides dans l'Union européenne.
Oui, alors en effet, mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même très important, c'est que la France a la plus grande surface agricole utile d'Europe. Donc si on rapporte les quantités vendues à la surface agricole, on se situe totalement dans la moyenne européenne. Les agriculteurs français ne consomment pas plus de pesticides que d'autres pays d'Europe, si on rapporte ça par hectare.
Oui, c'est ça, la France, grand producteur de blé avec ses 30 millions d'hectares, hein, c'est la surface agricole la plus importante de l'Union européenne.
Ouais.
Par rapport aux effets des pesticides, hein, on sait que les effets sur la biodiversité hein, peuvent être directs ou indirects. Pour commencer, hein, quels sont les effets directs qu'on observe, leur mamie ?
Les effets directs, donc ça peut être de la mortalité, donc un organisme exposé à un pesticide, il meurt. Mais ça peut être aussi d'autres effets du type un changement du comportement, par exemple, changement du comportement de vol ou perte d'orientation. Enfin, ça peut être ce type d'effet pour des effets directs.
Les néonicotinoïdes, par exemple ?
Oui, par exemple, voilà, en ce type d'effet, les abeilles ont du mal à retrouver la ruche quand elles partent chercher du pollen. Elles ne retrouvent pas leur chemin.
Wilfried Sanchez, sur ces effets directs des pesticides.
On a beaucoup d'éléments sur les effets directs des pesticides, déjà parce qu'ils sont connus depuis longtemps et qui mobilisent assez grandement la recherche scientifique. Au-delà des effets sur le comportement, il y a beaucoup d'autres fonctions essentiels pour les organismes qui peuvent être affectés par les pesticides. On pourrait par exemple citer les fonctions immunitaires. En gros, la capacité des organismes à se défendre vis-à-vis de pathogènes ou de maladies peut être affectée par l'exposition à certains pesticides. Et ce qu'on a pu montrer chez certains organismes, l'Ifremer le montre notamment chez l'huître, c'est que des organismes exposés à des pesticides vont être plus sensibles lorsqu'ils vont être mis en contact avec un virus ou une bactérie. On a également eu des travaux récents réalisés en Méditerranée qui montraient des mécanismes assez similaires chez des mammifères marins.
On a observé ça chez les huîtres, il me semble, hein, exposées à des herbicides.
Tout à fait. Des huîtres exposées à des mélanges de pesticides qui étaient assez similaires à ceux que l'on retrouvait dans des bassins ostréicoles et qui avaient une sensibilité exacerbée lorsqu'on les mettait en présence de virus spécifiques de l'huître.
Alors certains produits peuvent aussi altérer l'ADN des poissons.
Tout à fait, c'est l'un des multiples mécanismes d'action de ces pesticides. Ils vont pouvoir altérer donc l'ADN qui est cette molécule qui porte l'information génétique et qui fait ce que nous sommes. On va avoir cette altération et c'est une altération qui va pouvoir passer d'un parent à sa descendance via les cellules de la reproduction et derrière entraîner ce qu'on appelle des effets transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exposer des organismes et observer des effets au niveau de leur descendance, des effets qui peuvent être des anomalies du développement par exemple ou de la croissance.
Alors on parle donc des effets directs hein, de ces substances sur la biodiversité. Et les effets indirects également hein, sont nombreux. Quels sont-ils, leur mamie ?
Alors les principaux effets indirects sont liés à la perte des habitats ou à la perte des ressources en nourriture. Donc je m'explique. Si par exemple on utilise un herbicide pour détruire des mauvaises herbes dans un champ, donc cet herbicide n'aura pas de toxicité directe sur des insectes. En revanche, il va détruire des mauvaises herbes qui soit leur servent d'habitat, soit de support alimentaire. Donc du coup, ça va impacter aussi les populations et il y aura un effet négatif sur les populations de ces organismes-là.
C'est-à-dire que oui, avec le déclin des insectes, ça explique aussi pourquoi les oiseaux sont des victimes collatérales, par exemple.
C'est ça, exactement. Les populations d'insectes diminuent, donc les oiseaux n'ont plus de nourriture et donc leur population diminue aussi.
Alors, des résultats inattendus aussi hein, de votre rapport, c'est que certains pesticides favorisent l'émergence des bactéries résistantes, Wilfried Sanchez.
En effet, c'est un des mécanismes qui a été mis en évidence, cette capacité à favoriser l'apparition de bactéries résistantes. Comme je disais tout à l'heure, hein, les pesticides ont de nombreux mécanismes d'action, et celui-là est un parmi les autres. Et je reviens sur ce que vous évoquiez juste avant, sur ces effets indirects des produits phytopharmaceutiques. C'est un élément très très important et assez novateur de notre rapport d'expertise, puisqu'autant on avait beaucoup de données sur les effets directs de ces molécules, autant les effets indirects étaient moins documentés, moins mis en avant. Et donc ce rapport a eu le mérite de montrer l'importance de ces effets et peut-être de la nécessité de les prendre en compte dans l'étude de ces molécules.
Et sur l'importance de ces effets, hein, votre rapport montre hein, que ça ne concerne pas forcément que les insectes, mais selon votre rapport, les pesticides pourraient induire jusqu'à 40% de perte des macro-invertébrés des cours d'eau européens.
Oui, tout à fait. C'est des résultats qui remontent de la littérature scientifique. Alors, peut-être on peut faire un petit point de méthode. L'expertise scientifique collective, elle produit pas elle-même de la connaissance, mais elle mobilise une connaissance qui est déjà produite par la communauté scientifique internationale. Et puis elle l'analyse pour identifier des points forts, des lacunes et puis des points sur lesquels il y a encore débat. Et donc effectivement, ce résultat de la perte des macro-invertébrés dans les écosystèmes aquatiques avec un taux qui est relativement important, vous évoquiez 40%, c'est effectivement un élément qui est remonté dans la littérature scientifique et qui pourrait expliquer, enfin qui serait la source du déclin de la qualité des cours d'eau, puisque cette qualité des cours d'eau, elle est suivie au niveau européen par une grande directive qui est la directive cadre sur l'eau, où on suit un certain nombre de cours d'eau pour en évaluer la qualité. Et si les macro-invertébrés viennent à disparaître, bah, les cours d'eau basculeront en cours d'eau de mauvaise qualité.
Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
16h17 sur France Culture, nous parlons des effets des pesticides sur la biodiversité avec Laure Mamie et avec Wilfried Sanchez. Alors Laure Mamie, comment parvient-on à mettre en évidence les effets d'un pesticide ?
Alors, pour ce qui concerne exactement les effets sur la biodiversité, donc c'est plus généralement des études qui sont réalisées vraiment sur le terrain, in situ, puisqu'il s'agit de déterminer s'il y a des modifications dans les populations en termes de nombre et en termes de diversité des organismes. Donc en fonction du type d'organisme que l'on veut suivre, il y a différentes méthodes qui existent pour dénombrer ces organismes et leur diversité. Donc si c'est des micro-organismes, par exemple, on prélève du sol en plein champ, on va au laboratoire et on compte en gros les micro-organismes et on regarde leur diversité. Si c'est des plus gros organismes comme des vers de terre, on les compte directement dans les champs. Et si c'est des oiseaux, pareil, on dénombre. Et en fait, après, pour faire le lien entre les produits phytopharmaceutiques et un impact éventuel sur cette biodiversité, on connaît les pratiques agricoles des agriculteurs puisqu'ils les déclarent. Donc on sait quels pesticides ont été utilisés. D'autre part, on sait aussi en général quelles sont les concentrations, par exemple, dans l'eau de ces pesticides. Et donc en fonction de l'endroit où on fait le prélèvement, où on fait ce dénombrement, on peut mettre en évidence un lien entre l'usage de certains pesticides et un déclin de population. Et c'est exactement ce qui a été fait dans le cadre des néonicotinoïdes, puisque les mesures ont été faites dans des zones où ces insecticides étaient utilisés, on a vu un déclin, et dans des zones où ils n'étaient pas utilisés, il n'y avait pas ce déclin. Donc c'est ça qui permet de mettre en évidence un lien entre usage de certains pesticides et un impact sur la biodiversité.
Alors comment on sait, parce que souvent il y a plusieurs pesticides, plusieurs molécules, vous parlez des néonicotinoïdes, comment on peut établir par exemple le lien entre diminution de la biomasse et ces néonicotinoïdes précisément.
Alors ensuite, les expériences qui sont faites donc sur le terrain pour voir ces impacts, les modifications des populations, c'est complété par des études qui sont réalisées au laboratoire.
D'accord.
Où là, on applique, on expose directement des organismes à un pesticide et on regarde les effets donc sur la mortalité, sur la reproduction, sur le nourrissage, l'alimentation, etc. Et donc ça permet de déterminer quels sont les effets exactement d'un pesticide sur les organismes. Et par ailleurs, ces données sont disponibles aussi dans les dossiers réglementaires, mais il y a beaucoup de données aussi faites par la recherche académique, et donc c'est ça qui permet d'identifier quelles sont les conséquences d'un pesticide sur les différents organismes susceptibles d'y être exposés.
C'est ça, c'est que d'un côté, il y a les études de population, quand on dit on compte le nombre de vers de terre, et d'un autre côté, les études expérimentales.
C'est ça.
Pour voir les effets mécaniques, biochimiques.
Voilà.
De votre côté, Wilfried Sanchez, comment ça se passe du côté de la biodiversité marine?
Alors, c'est exactement la même chose. On a ces deux approches, avec des approches expérimentales où on va aller voir sur le terrain comment se passent les choses. Et puis derrière, des approches plus expérimentales, réalisées en laboratoire, où on va avoir des conditions qui sont plus simplifiées et qui permettent de rentrer plus profondément dans les mécanismes d'action et d'approcher plus finement la manière dont fonctionnent, dont agissent ces pesticides. Alors on l'évoquait tout à l'heure au début de notre discussion, en milieu marin, malheureusement, on manque de données sur les effets des pesticides sur la biodiversité. Et on manque de données parce qu'on a un nombre assez limité d'études, ce qu'on a expliqué par les difficultés d'accès au milieu marin. L'océan est vaste. Accéder à l'océan nécessite des moyens lourds, notamment des embarcations à l'image de celle de la flotte océanographique française. Alors que finalement, si on veut accéder à une parcelle de sol ou à un cours d'eau, c'est beaucoup plus aisé. Et donc, on peut imaginer que cette facilité d'accès explique cette lacune de connaissances sur le milieu marin. Donc on se rabat plutôt sur des études en laboratoire, dans des conditions qui sont plus simplifiées et qui rendent plus difficile l'extrapolation aux effets sur la biodiversité.
Mais c'est ça, que la spécificité du milieu marin, c'est que c'est quand même plus difficile à observer que le milieu terrestre. Donc.
Exactement.
Et c'est que les pressions... est-ce que le fait que les pressions exercées sur ces écosystèmes-là sont aussi nombreuses et très diverses?
Je le disais tout à l'heure, le milieu marin, c'est vraiment l'ultime réceptacle de toutes les contaminations. Donc bien évidemment, on va avoir des pesticides, mais aussi de nombreuses autres catégories de polluants chimiques. On a plus de 100 000 substances qui sont enregistrées sur le marché européen. Et puis vont s'ajouter les autres pressions. Alors Laure l'évoquait tout à l'heure, l'exploitation des ressources, avec notamment la pêche, la disparition ou la destruction des habitats, le changement climatique, et tout ça va agir de concert sur la biodiversité marine, comme ça agit de concert sur la biodiversité terrestre ou la biodiversité aquatique continentale. Et c'est un véritable enjeu pour la communauté scientifique que d'arriver à intégrer ces différents facteurs de stress et en comprendre les effets sur la biodiversité.
Alors, parmi justement ces méthodes pour déterminer les effets des pesticides sur la biodiversité, on parle donc en effet de ces études expérimentales. Mais comment ça se passe en laboratoire? Puisque certains produits inoffensifs en laboratoire pour les pollinisateurs, comme des herbicides, peuvent devenir létaux par effet cocktail avec d'autres produits dits inoffensifs, leur mamie.
Alors, en effet, ça c'est... Bien que la réglementation européenne soit une des plus exigeantes au monde, il faut quand même le rappeler, c'est important. Par exemple, un quart des pesticides autorisés aux États-Unis sont interdits en Europe. Mais cette réglementation, malgré tout, elle présente quand même certaines limites. Donc il y a des voies d'amélioration. Et notamment, dans les dossiers réglementaires, l'analyse des effets cocktails sur des organismes n'est pas requise. Donc c'est vraiment, au niveau réglementaire, l'effet d'une substance, substance par substance, sur différents types d'organismes. Et donc, bien évidemment, dans le milieu, les organismes sont exposés à un cocktail de substances. Et donc, il peut y avoir des effets synergiques qui, effectivement, s'observent après sur le terrain.
Et c'est-à-dire que là, il est impossible d'étudier les effets de chaque composé sur chaque espèce, de chaque compartiment. Les études expérimentales là-dessus sont assez longues et difficiles à mettre en place également.
Alors, dans les dossiers réglementaires, il y a tout un tas d'études qui doivent être fournies. Et en fait, quand même, l'effet de chaque pesticide tout pesticide qui dispose d'une autorisation sur le marché. Il y a eu des études pour évaluer leurs effets sur un grand nombre d'organismes, des organismes du sol, des organismes aquatiques, des oiseaux, etc. Mais l'inconvénient, c'est que c'est l'effet d'un seul pesticide à la fois. Et ensuite, dans le milieu, il y a donc plusieurs pesticides. Et donc, c'est effectivement la difficulté, c'est qu'il y a un très grand nombre de combinaisons possibles de mélanges de pesticides. Et donc, c'est très compliqué de réaliser des études systématiques pour toutes les combinaisons possibles de pesticides qu'on pourrait trouver dans l'environnement.
Alors, pour mieux prévoir les effets de ces molécules, il existe un outil, il s'appelle Tipol. En quoi ça consiste, Laure Mamie ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors, l'outil Tipol est un outil qui est qualitatif et qui a été conçu pour essayer d'estimer le comportement dans l'environnement ou les effets de composés organiques, donc des pesticides en particulier, à partir de leurs propriétés moléculaires. Parce que, par exemple, lorsqu'un pesticide se dégrade dans le milieu, il y a des produits de dégradation qui sont formés, qui peuvent être très nombreux. Et on n'a pas toujours des données pour vraiment caractériser leur comportement dans l'environnement et leurs effets. Mais comme on sait que les propriétés moléculaires d'un composé vont être assez déterminantes de leurs effets ou de leur comportement, si on connaît ces propriétés moléculaires, on peut avoir une estimation des effets potentiels. Donc voilà, c'est dans cet objectif qu'avait été conçu cet outil, mais ça reste quand même qualitatif. Mais il est surtout effectivement adapté et utile pour essayer de faire un premier classement des produits de dégradation des pesticides qui seraient susceptibles de présenter un risque pour les organismes de l'environnement.
Et c'est-à-dire qu'on peut vraiment deviner le comportement d'un pesticide à partir de formules moléculaires.
Alors, c'est pas malheureusement suffisamment précis, mais en tout cas, on peut effectivement les classer par catégorie et déterminer si c'est plutôt, il va se classer dans une catégorie peu toxique, moyennement toxique ou avec une écotoxicité un peu plus importante.
Ça, sur ce type d'outil-là, Wilfried Sanchez, comment est-ce que c'est des choses assez intéressantes et pertinentes pour la biodiversité marine ?
Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est à mettre en regard d'autres tendances, notamment les tendances qui visent à réduire l'expérimentation animale, et donc pouvoir s'appuyer sur des outils de modélisation, où à partir de la structure des molécules, on pourrait anticiper le risque que peuvent poser ces molécules-là sur tout ou partie de la biodiversité, est effectivement une voie d'avenir qui semble intéressante à explorer.
Alors comme on le disait, les études en laboratoire n'offrent pas les mêmes données que les études de terrain, on n'a pas accès aux mêmes informations. Les études de terrain permettent aussi de pouvoir suivre la dissipation, ça aussi c'est un point important, Wilfried Sanchez.
Tout à fait. L'avantage des études de terrain, c'est qu'elles nous permettent, elles permettent aux scientifiques de suivre toute la chaîne qui va aller de l'introduction de la molécule dans l'environnement jusqu'à sa dissipation, sa disparition, et au passage, l'ensemble des effets qu'elle va pouvoir générer. Donc, les études sur le terrain sont effectivement très importantes. Elles permettent plus difficilement de bien appréhender les mécanismes d'action de ces molécules, savoir effectivement si une molécule interagit avec la fonction immunitaire, avec l'ADN, on l'évoquait tout à l'heure, ou avec le comportement. Pour ça, on est quasiment obligé de repasser par l'étude de laboratoire pour avoir des conditions expérimentales un petit peu simplifiées. On l'évoquait tout à l'heure, le terrain, c'est quand même un joyeux mélange de stress environnementaux, qu'ils soient chimiques, physiques ou biologiques. Et démêler là-dedans la part de chaque molécule est pour le moment assez compliqué.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a, sur le terrain, en pleine nature, il y a de nombreux facteurs confondants.
Oui, absolument. Donc, il peut y avoir déjà plusieurs types de molécules, d'autres polluants que des pesticides, bien sûr. Ensuite, il y a le facteur climatique. Pour vous parliez tout à l'heure du sol, la structure du sol aussi va induire une mobilité qui peut être différente d'un sol à l'autre. S'il y a de la macroporosité, comme des galeries de vers de terre qui vont avoir des flux d'eau plus rapides et qui peuvent entraîner les pesticides plus profondément. Donc il y a tout un tas de facteurs confondants et c'est pour ça que c'est important de faire des études sur le terrain, puisqu'on peut vraiment savoir ce qui se passe exactement en conditions réelles. Mais ensuite, pour expliquer les mécanismes, il faut qu'on soit en laboratoire pour finalement séparer les différents effets ou les différents processus les uns des autres et pouvoir ensuite vraiment expliquer autant qu'on peut ce qui se passe sur le terrain.
Gaëtan Nonchalant à 16h32 sur France Culture, car nous parlons de pesticides avec Laure Mamie, directrice de recherche à l'INRAE, rédactrice du rapport IFREMER-INRAE, paru en mai dernier, sur l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement, et avec Wilfred Sanchez, co-auteur de ce rapport, directeur scientifique adjoint à l'IFREMER, en charge de la thématique contaminants et impact sur le milieu marin. Alors on a vu les dommages de l'usage des pesticides dans l'environnement pour la biodiversité. Les conséquences néfastes sont aussi avérées sur la santé humaine. Et cette toxicité est étudiée dans le cas des populations particulièrement exposées aux pesticides. Bonjour Céline Lozanne.
Bonjour Natacha. Eh bien oui, chez la population des agriculteurs et agricultrices, on a démontré depuis une dizaine d'années le lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et l'émergence de la maladie de Parkinson. Pour autant, les mécanismes neurotoxiques de ces produits restent mal connus, que ce soit au niveau cellulaire ou moléculaire. Julien Desroux et son équipe analysent justement ce mécanisme à l'université Paris-Cité. Ils étudient notamment une famille de pesticides, les carbamates, qui altèrent le fonctionnement d'une enzyme impliquée dans la réparation des cellules neuronales.
Là, vous avez ce qu'on appelle une chromatographie en phase liquide. Donc le principe, c'est de séparer des mélanges plus ou moins complexes de molécules et de pouvoir les détecter. Ben là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un injecteur automatique. Hein. On met nos échantillons dans des petits viales.
Dans des puits, quoi.
Oui, des espèces de petits puits. On a un système de seringue qui va venir prélever l'échantillon. Et après, ces plaques, elles vont venir dans des systèmes de portoirs dont on peut mettre 200 conditions, donc deux plaques. Et après, la machine va venir, vous voyez, il y a un petit film là sur les puits. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez le film qui est percé sur chacun des puits qui a été.
Ah oui.
Donc ça veut dire que l'aiguille est venue transpercer le petit film, prélever une certaine quantité d'échantillons et elle l'a injecté au système chromatographique. Et chaque puits, ça va être une analyse chromatographique. L'analyse, quand vous regardez
sur l'écran,
vous allez observer des pics et donc des activités, en l'occurrence ici, de notre enzyme. On utilise ces mêmes machines pour détecter et quantifier les pesticides présents dans tel ou tel milieu. En fait, on a une approche qui est très moléculaire. On est ici dans un laboratoire de chimie et on a en réalité travaillé sur ce lien pesticide-Parkinson à travers l'activité d'une protéine qui est codée par ce qu'on appelle un gène PARC, PARC pour Parkinson. Et en fait, on a identifié une vingtaine de gènes PARC comme étant des protéines importantes dans le développement de la maladie de Parkinson. Et on sait donc que ces protéines sont importantes pour le développement de la maladie de Parkinson. Quand on perd la fonction de cette protéine, eh bien, on s'est demandé si d'autres causes que génétiques pouvaient avoir les mêmes effets. Autrement dit, est-ce que l'exposition à des pesticides en l'occurrence, pouvait avoir un impact sur l'activité de ces protéines, exactement comme si on impactait le gène chez les individus qui développent.
Et en l'occurrence, dans la population ciblée des agriculteurs, il n'y a pas de défaut génétique. Là, c'est vraiment.
Là, exactement. On est dans un contexte de perte de fonction qui n'est pas dû à un patrimoine génétique, mais qui est dû à un risque d'exposition environnementale. Et on a identifié effectivement que pour certaines familles, et particulièrement les dithiocarbamates, hein, c'est un nom un peu chimique barbare, eh bien, on avait une toxicité particulière sur notre protéine. Et on sait également qu'elle est liée à la métabolisation du sucre dans l'organisme. C'est-à-dire que quand on métabolise, on fait ce qu'on appelle de la glycolyse, on va, ce qui est extrêmement important puisque c'est la source énergétique privilégiée d'une cellule, on peut générer des espèces qui sont toxiques.
C'est-à-dire qu'en découpant le sucre, on produit du déchet ?
Voilà, exactement. On va produire des espèces qui sont toxiques et qui peuvent attaquer tout ce qui est environne, c'est-à-dire toutes les structures macromoléculaires et cellulaires. Et donc, on a des systèmes de défense, et DG1 est impliqué dans ces systèmes de défense. Et en tout cas, c'est un mécanisme que nous, on a mis en lumière, que notre équipe a mis en lumière sur cette activité déglycase qu'on appelle de DG1.
Ici, avec ces machines, on a pu voir l'effet délétère sur des tissus nerveux, par exemple.
On a des modèles cellulaires, qui sont des lignées cellulaires neuronales qui expriment DG1, et on a pu montrer que quand on soumet ces cultures cellulaires, donc ces cellules, à des doses subtoxiques, en tout cas, on a l'impression que la cellule va très bien. Bien, quand on regarde de façon un peu plus fine, sur des extraits cellulaires, on voit une dose-réponse extrêmement convaincante de l'effet de ces pesticides.
En quoi vos travaux éclairent le mécanisme fondamental délétère au niveau neurologique, peuvent aussi servir d'argument au niveau des décideurs de santé publique?
Alors, autant on sait que la maladie de Parkinson et les pesticides, il y a un lien, autant le lien moléculaire n'est pas avéré et il n'est pas démontré. On veut.
Mais c'est ce que vous faites pourtant.
Exactement, mais ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on en a la certitude que ce qu'on fait.
Vous n'êtes pas entendu en fait.
Alors, ce n'est pas qu'on n'est pas entendu, c'est que pour l'instant, et il faut des études en long cours sur plusieurs années, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments scientifiques à l'échelle, pas seulement moléculaire, mais aussi d'un organisme, pour démontrer notre hypothèse de dire que la voie de glycation est impliquée dans le processus de lien entre Parkinson et pesticides. Il faut savoir que la plupart de ces molécules sont heureusement interdites en France et dans l'Union européenne. Ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays émergents et beaucoup de pays dont on fait de l'import de produits issus de la culture avec l'utilisation intensive de ces pesticides. On prend qu'un seul exemple qui est un peu emblématique, c'est le paraquat qui est interdit depuis 2007 en France. Eh bien, elle reste très largement utilisée en Indonésie et au Brésil. Elle est particulièrement inhibitrice de DG1 et elle est associée à la maladie de Parkinson.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Laure Mani ?
N'étant pas toxicologue, je peux difficilement interpréter ou commenter ces résultats. En revanche, l'INSERM a sorti l'année dernière une très grande expertise où ils ont analysé toute la littérature scientifique qui mettait en lien l'usage des pesticides et des effets sur la santé humaine. Donc le mieux est de se référer à ce rapport. Moi, je peux difficilement.
En effet, on a un rapport important qui montre des liens, un florilège morbide de maladies humaines, cancer, maladies neurodégénératives, etc. Wilfred Sanchez, par rapport à ce reportage qu'on vient d'entendre.
Moi, il y a deux points qui me font réagir. Le premier, c'est le mécanisme d'action qui est exploré par notre collègue toxicologue. On s'intéresse à des effets sur les cellules neuronales. les organismes sauvages, hein, les organismes qui composent la biodiversité, ont aussi pour nombre d'entre eux des cellules neuronales dont on sait qu'elles sont affectées par les pesticides. Il y a des mécanismes très connus, notamment les mécanismes portés par les carbamates ou par les organophosphorés, qui vont pouvoir perturber les signaux nerveux qui sont à la base d'un certain nombre de fonctions physiologiques, et puis derrière altérer le comportement. Et donc on revient sur ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, effectivement ces molécules-là, elles vont pouvoir entraîner un certain nombre de perturbations comportementales. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, il concerne plutôt la conclusion sur ce besoin d'études au long cours, qui est également un élément qu'on met en évidence dans le cadre de notre expertise, où effectivement on a parmi les 4000 références bibliographiques qu'on a pu mobiliser, un certain nombre de résultats qui sont extrêmement forts pour documenter un lien entre le déclin de la biodiversité et la contamination par les produits phytopharmaceutiques. Et à côté de ça, on a parfois des petits signaux d'alerte qui s'allument et qui nous incitent à aller voir plus loin, à réaliser justement des études au long cours, des études qui prendront du temps pour explorer plus profondément ces signaux d'alerte et voir si à un moment donné on arrive à conclure positivement ou négativement sur les effets que peuvent avoir ces pesticides sur la biodiversité ou les services écosystémiques.
Laure Mamie, pour réagir à ce que vient de dire Wilfried Sanchez.
En effet, oui, je rejoins tout à fait ce qui vient de dire et ce que nous avons constaté dans l'expertise que nous avons menée, l'importance de réaliser des études à long terme pour pouvoir mieux caractériser les effets des pesticides, aussi bien sur donc la santé humaine dont on vient de parler, mais sur la biodiversité et l'environnement dans son ensemble.
Mais est-ce qu'il n'existe pas quand même un consensus scientifique sur le fait que les pesticides ont un impact direct sur la biodiversité déjà ? Avec le nombre d'études que vous avez déjà même analysées pour votre rapport. Enfin...
Alors en effet, comme on l'a dit tout au début, il y a un lien de cause à effet évident pour certains organismes, donc comme les invertébrés terrestres, donc c'est-à-dire des papillons, des bourdons ou des abeilles, les oiseaux, les invertébrés aquatiques, c'est-à-dire les crevettes, les mollusques. On voit aussi un lien entre l'usage des pesticides et des effets sur, par exemple, les chauves-souris ou les amphibiens. En revanche, actuellement, dans la bibliographie, pour d'autres types d'organismes, il n'y a pas encore de données qui permettent de mettre en évidence un lien. Par exemple, pour les micro-organismes du sol, les résultats qu'on voit dans la bibliographie sont très contrastés. Parfois, les pesticides ont un effet négatif, parfois pas d'effet, parfois un effet positif. Donc, on peut difficilement conclure pour certains types d'organismes à ce jour.
Alors, dans le reportage qu'on vient d'entendre, hein, il était aussi question de régulation internationale. Un système de régulation se met en place depuis les années 50-60, mais alors comment s'opèrent aujourd'hui les régulations des pesticides en France? On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais je veux bien qu'on revienne plus précisément sur cette question-là, Laure Mamie.
Donc, en effet, il y a une réglementation européenne qui va conditionner la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Donc, cette réglementation implique qu'il faut pouvoir caractériser le comportement dans l'environnement d'un produit, ses effets écotoxicologiques, ses effets sur la santé humaine, etc. Et donc, une substance ne peut être approuvée au niveau européen que si le risque est acceptable dans tous ces domaines. Une fois qu'une substance est approuvée, la substance, si on compare avec des médicaments humains, ce serait par exemple le paracétamol. Et ensuite, le paracétamol, il peut entrer dans la composition de plusieurs médicaments que nous, on va acheter en pharmacie, donc je ne citerai pas de marque, mais il y en a plusieurs. Et donc, c'est pareil pour les pesticides. Il y a un certain nombre de substances qui sont approuvées au niveau européen, et ensuite, ces substances rentrent dans la composition d'un produit commercial. Mais chaque pays d'Europe est souverain, c'est-à-dire que, par exemple, en France, il y a beaucoup moins de substances autorisées, environ 300, alors qu'il y en a 450 au niveau européen. Et donc, bien sûr, au niveau national, en France, il y a une évaluation des risques qui est réalisée pour chaque produit, aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement et les organismes de l'environnement. Et le produit n'est commercialisé que si le risque est acceptable, bien sûr, pour tous ces domaines et s'il est démontré que le produit phytopharmaceutique n'aura pas d'effet inacceptable, en particulier sur l'environnement, puisqu'on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui.
Alors, pour reprendre l'allégorie du médicament, par exemple, pour le glyphosate, la substance active, c'est évalué et autorisé au niveau européen par l'EFSA, mais sa formulation commerciale, l'herbicide, le Roundup, de l'entreprise Monsanto, est évaluée en France par l'ANSES, c'est ça?
Tout à fait. Donc après, la firme qui veut commercialiser un produit à base de glyphosate, va déposer dans chaque pays d'Europe dans lequel elle veut commercialiser son produit un dossier, pareil, qui comprend toutes les données qui permettent de caractériser les effets de ce produit et les risques. Et donc ensuite, chaque pays, en fonction des données analysées et aussi des données qui sont disponibles dans la littérature scientifique, parce que les deux sont pris en compte, aussi bien les données du dossier réglementaire au niveau européen que les données disponibles dans la littérature scientifique académique, l'ensemble est pris en compte et ensuite au niveau de l'ANSES, ils vont déterminer si le risque est acceptable ou pas et si le produit peut être autorisé ou pas.
Et sur ces données, sur quoi justement portent ces études? L'évaluation porte par exemple seulement sur la matière active?
Non, alors au niveau européen c'est sur la matière active. Et au niveau national, ça va être sur le produit formulé, puisque le produit que les agriculteurs ou que même nous, les particuliers, avant, on pouvait acheter, contient une substance active, donc le glyphosate, plus des coformulants qui vont permettre, par exemple, de favoriser la pénétration du glyphosate dans la plante, puisque il fonctionne en étant absorbé par le feuillage, etc. Et donc, ces coformulants qui sont dans la préparation commerciale peuvent, elles aussi, ils peuvent eux aussi avoir des effets. Donc au niveau national, on va évaluer vraiment la toxicité du produit complet avec tous ses composants.
Et ça, c'est une évaluation qui porte, pour les produits, les molécules, ok. Est-ce que c'est une évaluation qui porte aussi sur les risques directs uniquement? On a vu que les risques pouvaient être indirects.
Ah oui, alors en effet, les données qui sont requises dans les dossiers réglementaires, ce sont plutôt effectivement la caractérisation des effets directs, c'est-à-dire sur la mortalité ou des effets sublétaux sur la reproduction, ou des effets neurotoxiques ou ce type d'effet-là. Mais en effet, par exemple, dans le cas du glyphosate, un dossier réglementaire ne nécessite pas de déterminer si le fait que le glyphosate va détruire des mauvaises herbes va ensuite induire un problème pour un organisme qui habite dans cette mauvaise herbe ou qui s'en nourrit. Donc ça fait pas partie de ce qui est évalué au niveau réglementaire.
Est-ce que c'est une régulation qui peut être considérée comme suffisante?
Alors, je le répète, et c'est vrai, parce que la réglementation européenne est quand même une des plus exigeantes au monde. Ensuite, dans toute évaluation de risque, il y a toujours une marge de sécurité qui est prise en compte. Donc, une marge de sécurité pour être vraiment sûr de couvrir le risque. Donc ensuite, les difficultés, c'est que cette réglementation présente effectivement des limites, comme on l'a indiqué un peu tout à l'heure. Notamment, elle prend pas en compte les effets cocktails. Et puis aussi, il y a un certain nombre d'études qui est requis pour évaluer les effets, donc par exemple sur des poissons, certains oiseaux ou les abeilles. Mais par exemple, dans la réglementation, on ne demande pas d'évaluer le risque pour des amphibiens ou des reptiles. Voilà, donc il y a effectivement des voies d'amélioration pour cette réglementation pour vraiment améliorer l'évaluation des risques et davantage protéger l'environnement.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
h 48, nous sommes avec Laure Mamie, avec Wilfred Sanchez. On vient de voir les conséquences des pesticides sur l'environnement. On vient de parler de leur régulation et de leur réglementation. On voit donc qu'il y a un impératif de limiter l'effet des pesticides sur l'environnement. Ça, comment limiter les effets des pesticides sur l'environnement? Quelles sont les pistes actuelles, Laure Mamie?
Donc en effet, il y a heureusement plusieurs leviers d'action possibles. Donc bien sûr, le premier levier totalement évident, c'est de réduire les quantités, puisque si on réduit les quantités, il y aura moins de pesticides dans le milieu, donc les organismes seront moins exposés à ces pesticides. Une autre solution consiste à utiliser des produits phytopharmaceutiques comme du biocontrôle, par exemple. Donc le biocontrôle, c'est des extraits de plantes. C'est, par exemple, utiliser des coccinelles pour aller détruire des pucerons ou bien utiliser des phéromones, donc c'est-à-dire des pièges qui miment des phéromones femelles. Et du coup, un papillon ravageur est attiré et piégé dans ce piège-là. Et donc, c'est un moyen de réguler, en fait, des ravageurs ou voilà dans l'environnement. Donc ça, c'est une possibilité donc d'agir au niveau de la molécule. Ensuite, il y a trois niveaux possibles de levier d'action. Au moment de l'application, donc c'est bien sûr essayer de prendre en compte, et c'est de toute façon réglementé, les conditions météorologiques, donc ne pas traiter quand il y a trop de vent, puisque ça évite de disperser le pesticide en dehors de la parcelle où il doit être appliqué, par exemple. Ensuite, on peut agir au niveau de la parcelle en elle-même, et en particulier dans la gestion du sol, puisque le sol est souvent le premier compartiment qui va recevoir le pesticide. Et donc, si on sait par exemple que si un sol est recouvert par des résidus de récolte, notamment après que l'agriculteur ait récolté sa culture, le fait que le sol ne soit pas nu et protégé, cette protection, cette couverture qu'on appelle un mulch, va intercepter les pesticides, de façon de plusieurs dizaines de pourcents, donc ce qui va éviter qu'ils se retrouvent dans le sol et donc d'impacter par exemple des vers de terre. Et le troisième niveau d'action, c'est à l'échelle du paysage, donc c'est d'implanter des aménagements. Par exemple, on sait qu'un paysage simplifié dans lequel il n'y a plus de haies, plus de bandes enherbées, etc., il y aura beaucoup plus d'impact sur la biodiversité que dans un paysage où il y a encore des haies ou des bandes enherbées, parce qu'en fait, ces haies et ces bandes enherbées sont des zones qui ne sont donc pas traitées et qui vont servir de zone refuge à la biodiversité. Donc voilà, donc c'est un autre niveau d'action au niveau du paysage, donc de réimplanter des haies, mettre des bandes enherbées. Il y a aussi les zones tampons dites humides, comme les étangs ou les mares, qui peuvent capter les pesticides et les dégrader. Donc voilà.
Alors sur, vous parlez de la nécessité de réduire l'usage des pesticides. Ça, c'est un plan qui a été lancé en 2008, le plan Ecophyto, qui avait cet objectif-là. Des millions ont été investis. Pourquoi sur le plan des pratiques, ça n'a pas suivi ?
Alors effectivement, le plan Ecophyto, il a été réactualisé plusieurs fois. Donc là maintenant, son objectif, c'est que l'usage des pesticides soit réduit de 50% d'ici 2025. Donc après, ce plan Ecophyto, pour l'instant, il est basé beaucoup sur les ventes de produits phytopharmaceutiques. Donc il faut quand même souligner que tout ce qui est vendu n'est pas forcément utilisé. Et ensuite, bien sûr, le niveau d'utilisation des pesticides va dépendre aussi de l'infestation des cultures et du niveau des ravageurs. Et puis, malgré tout, on constate vraiment que les agriculteurs, depuis plusieurs années, ils changent leurs pratiques. Il y a une grosse évolution vers le biocontrôle. Le marché du biocontrôle a très fortement augmenté en 2021. Et on pense que d'ici 2030, ça représentera à peu près un tiers du marché des produits phytopharmaceutiques. D'autre part, on voit bien que les agriculteurs aussi, ils ont tendance à réimplanter des haies. Donc les pratiques évoluent. C'est vrai que c'est peut-être trop lent par rapport à ce qu'on souhaiterait. Mais ces pratiques évoluent dans le bon sens et voilà, on espère bien que les objectifs seront atteints.
Alors oui, on évoque les agriculteurs, mais évidemment tout ça semble impensable de repenser le modèle agricole, les pratiques, sans un accompagnement économique et sans des actions politiques fortes. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est temps de retrouver le pourquoi du comment, une chronique signée Étienne Klein.
Des images démontrent-elles le contraire de ce qu'elles montrent ? L'image d'une chose n'est jamais la chose même, ce que Platon expliquait en ces termes. Les images sont loin de renfermer le même contenu que les objets dont elles sont les images. Fin de citation. Non que les images soient nécessairement trompeuses, mais elles se distinguent toujours de ce qu'elles semblent manifester. À son époque, le philosophe athénien ne pouvait pas deviner à quel point il avait raison. Les images que produit la science sont dotées d'une éloquence parfois aussi brutale que trompeuse. Elles semblent parler d'elles-mêmes, imposant une interprétation qui semble relever de la pure évidence. Or, après examen, on réalise qu'elles démontrent en réalité le contraire de ce qu'elles montrent. L'exemple le plus convaincant est celui d'un cliché de chambre à bulles. Les chambres à bulles sont des détecteurs de particules qui furent utilisés pendant une vingtaine d'années dans les laboratoires de physique à partir de 1953. Les photographies qu'elles permettaient de prendre exhibent l'élégance des trajectoires curvilignes et arborescentes qu'ont les particules électriquement chargées lorsqu'elles traversent un milieu baignant dans un champ magnétique. Déjà, le nom donné à ces détecteurs peut induire en erreur. Les mots « chambre » et « bulle » évoquent, chacun à sa façon, le repos et la sieste, mais c'est en l'occurrence très trompeur. Les chambres à bulles rendent au contraire manifestes les arcanes très violentes du monde microscopique. Elles donnent à voir les chorégraphies éphémères auxquelles se livrent les particules gorgées d'énergie, dont les chocs avec des noyaux d'atomes libèrent des bouquets de nouvelles particules. Mais bien que très violents, ces chocs, une fois figés sur une pellicule, produisent une sorte de beauté respirant la paix. Le principe de la chambre à bulles s'inspire de celui de la cocotte minute. En maintenant sous pression un liquide que l'on chauffe, on l'empêche de bouillir. Si on relâche brusquement la pression, le liquide ne se met pas aussitôt à bouillir. Il reste provisoirement dans un état métastable dans lequel la moindre perturbation suffit à faire démarrer localement l'ébullition. Lorsqu'une particule chargée traverse un tel liquide, elle agit justement comme une perturbation, de sorte que de petites bulles apparaissent au sein du liquide, formant une traînée qu'on assimile à la trajectoire de la particule. C'est à un physicien américain, Donald Glaser, que l'on doit cette idée. qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1960. Une légende raconte que c'est en contemplant les bulles qui s'élevaient dans son verre de bière que cette idée lui serait venue. Mais en 2006, le principal intéressé prit soin de la démentir au cours d'une conférence, concédant seulement que le liquide dont il avait rempli les premiers prototypes de son invention était de la bière blonde. Je précise, par souci d'équilibre, que le bar où il avait l'habitude de coincer la bulle s'appelait « The Brown Jug », ce qu'on peut traduire par « la cruche brune ». Quand on ne veut pas entrer dans les détails, on explique que le mécanisme produisant des traces de particules dans les chambres à bulles est analogue à celui par lequel un avion dessine sa trajectoire dans le ciel. L'avion provoque au sein du milieu qu'il traverse des modifications locales visibles à l'œil nu. De cette éloquente métaphore, on déduit que les particules sont, tels les avions mais en plus petit, des objets bien concrets, précisément localisés et se déplaçant selon une trajectoire bien définie. Bref, on se convainc facilement que ce sont des corpuscules, c'est-à-dire de tout petits grains de matière. Or, il se trouve que cette conclusion est erronée. D'abord, rien ne prouve qu'avant leur arrivée dans la chambre à bulles, les particules incidentes possèdent une trajectoire. De fait, la physique quantique exige qu'on représente chacune d'elles comme une onde qui se propage, de sorte qu'au départ, ces particules n'ont pas de trajectoire proprement dite. De plus, il s'avère que c'est grâce à cette représentation ondulatoire des particules, et seulement grâce à elles, que l'on peut montrer que les bulles qu'elles font apparaître ont une probabilité très forte de s'établir selon une ligne qui nous semble continue. En définitive, ce que nous voyons, ce n'est pas la trajectoire des électrons eux-mêmes, car en réalité ils n'en ont pas, mais la trace laissée par le cheminement des bulles qui sont toutes beaucoup plus grosses qu'un électron. En clair, l'idée de corpuscule ne permet pas, à elle seule, de rendre compte de ce phénomène qui est pourtant d'apparence corpusculaire. C'est pourquoi Roland Barthes avait raison de dire dans Mythologie « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un coup, sans l'analyser et sans la disperser. » Fin de citation. Et c'est pourquoi elle nous trompe.
Merci Étienne Klein et merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci aux camarades de France Bleu Héros pour le duplex. Merci à l'équipe de choc de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Garance Préma Anolo, Céline Lausanne, Natacha Demoule, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Clara Galivelle. Merci à Noémie Naguet de Saint-Vulfran pour le live tweet sur Twitter. Cette émission se podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Et souvenez-vous, rien n'est établi.